Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux et je suis très heureuse parce que je viens d'avoir la chance de rencontrer Grégory Pécastin. En effet, Grégory Pécastin est un négociant en vin et il a fondé un musée du vin et du négoce en 2008. Nous allons d'ailleurs pouvoir ensemble visiter ce musée sous sa direction, mais tout d'abord, il va nous expliquer d'abord comment il a eu cette idée de construire ce musée, et un musée particulièrement intéressant. Alors, Grégory Pécastin, d'abord bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que vous êtes de Bordeaux je dirais presque que le vin coule en vous parce que vous vivez Bordeaux, vous vivez le vin avec vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors peut-être d'abord cette maison qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est le centre des Chartrons.
Elle est le centre des Chartrons, enfin c'est plutôt les Chartrons qui sont le centre de Bordeaux.
On va dire ça aussi.
C'est plutôt ça, ce petit quartier qui cache énormément de bâtisses construites au XVIIIe siècle avec des prouesses architecturales magnifiques, donc qui sont pour la plupart des hôtels privés. Nous sommes dans un hôtel privé, mais que j'ai ouvert un petit peu au public pour justement pouvoir partager cette belle architecture.
Parce que cet hôtel vous appartenait
Pas du tout, moi je suis simplement locataire, à mon grand regret, parce que cet immeuble a changé de main il y a quelques années, et j'aurais dû peut-être me positionner pour pouvoir investir les étages supplémentaires. Ceci dit, le musée reste quand même à taille humaine et malheureusement, on n'a pas pu se positionner financièrement vu la spéculation que subit ce quartier des Chartrons, puisque c'est un quartier vraiment à la mode avec, comme je vous dis, des très belles architectures du 18e avec du volume et de la belle pierre.
C'était aussi, et ça c'est intéressant, des maisons qui étaient construites presque sur pilotis.
C'est pas presque, c'est qu'on n'avait pas forcément le choix à l'époque, puisqu'on était sur un quartier qui est relativement marécageux. Donc les moines chartreux qui étaient en dehors de la ville de Bordeaux, des remparts, qui squattaient donc dans ce quartier qui s'appelle aujourd'hui les Chartrons, en hommage aux moines chartreux, les Hollandais, quand ils sont arrivés.
Ce sont les moines chartreux qui ont donné ce nom.
Les Hollandais, on les ont poussés un petit peu, on va dire, vers Mérignac, vers d'autres paroisses, et du coup, ils ont commencé à essayer de construire sur ces sols meubles, et donc il y avait une technique que nous ne savions pas encore exploiter, mais ils avaient du pain maritime qu'ils importaient du nord de l'Europe, et ils arrivaient à les enfoncer comme des pieux, ce qui est venu donc des pielotis pour pouvoir après construire et surtout stabiliser le sol pour pouvoir construire ces belles maisons.
Pielotis et donc pilotis.
Tout à fait.
Alors, il y a aussi des caves absolument superbes, et c'est un peu dans ces caves que réside ce musée.
Alors, c'est effectivement dans les caves qu'on a retracé l'histoire du vin de Bordeaux, parce que l'histoire du vin, elle est liée à la fois à son passé maritime et aux différentes influences des nationalités qui ont siégé sur Bordeaux, parce que Bordeaux, comme vous le savez, je pense, a été sous l'emprise anglaise pendant de nombreuses années. C'est un héritage qu'on a aujourd'hui et qui est important de dévoiler. C'est dans ces caves que vous allez découvrir une partie historique et après une partie un petit peu plus technique sur le vin, puisqu'on est quand même à Bordeaux.
Alors justement, cet hôtel particulier appartenait au Calvé, une grande famille bordelaise. Et je peux dire qu'il va y avoir une grande évolution dans ce quartier, puisque j'ai déjà vu un hôtel absolument magnifique qui montre une renaissance aussi des Chartrons.
Tout à fait. En fait, c'est un quartier qui, pendant des années, était un peu excentré, on va dire, même si Bordeaux reste une ville quand même à taille humaine relativement petite, je trouve, et très agréable à vivre. Aujourd'hui, le centre se développe un peu et le quartier des Chartrons est redevenu à la mode, alors qu'il y a 20 ans, personne ne voulait venir s'y installer. Aujourd'hui, on se bat, c'est presque le premier quartier sur lequel la spéculation financière est malheureusement un peu triste, parce que du coup, les Bordelais ne peuvent plus, s'ils veulent rester dans leur quartier, assumer cette richesse architecturale.
Mais en fait, on peut aussi se demander pourquoi à Bordeaux. Pourquoi cette installation des chartrons? Pourquoi ce...
Alors là, Bordeaux, alors là, il faut venir dans l'autre salle qu'on a ouverte juste à côté du musée
oui,
du vin du Négoce.
Oui, parce que je dois dire, chers auditeurs, venez... qu'il y a dans ce musée comporte deux entrées, si je puis dire. L'une pour l'histoire vraiment du vin et l'autre qui montre les gens qui ont vraiment été célèbres dans Bordeaux et qui ont vraiment fait beaucoup de choses pour Bordeaux.
Alors, non seulement, mais c'est surtout là où je tiens vraiment à insister, c'est que cette seconde salle qu'on a ouverte, où on parle du positionnement de Bordeaux à partir du moment où les Romains se sont installés ici, s'ils ont choisi cette place dans la courbure de la Garonne, c'est que déjà, pourquoi la Garonne a cette courbure?
Voilà, c'est
donc
ça qui est
intéressant. Déjà, ici, vous allez pouvoir découvrir pourquoi la Garonne, au niveau géologique, elle a fait ce virage. Et après, c'était logique de se placer dans ce virage parce que c'est là où vous avez une vue sur, en amont et en aval, la meilleure vue. Donc, ils ne se sont pas installés là par hasard, les Romains.
Non.
Après, c'était un passage qui était... Bordeaux était le lien entre la Méditerranée et les grandes mers. Il n'y avait pas le canal de Suez, donc forcément Bordeaux avait une place importante déjà à l'époque. Même à l'époque des Vikings, ils étaient capables, bien sûr, de naviguer sur des bateaux un petit peu de fortune. Mais ces bateaux, quand il y avait de la terre, ils mettaient des rondins de bois pour traverser aussi les continents et aller plus loin. Donc les Romains, quand ils se sont installés ici, ils ont trouvé que la place s'y plaisait bien pour la sécurité, mais c'est surtout qu'on était proche de la mer, on est proche de la Méditerranée. Donc voilà le début de Bordeaux, quoi.
Mais c'est ça, parce que c'était
exactement.
Bordeaux, effectivement.
Bordeaux, bien sûr.
Avant
d'être Bordeaux, on est quand même au bord de l'eau, ça c'est évident.
C'est ça.
C'est une ville qui naît de l'eau.
Mais oui.
Bordeaux, sans son eau, ben, ça ne serait pas Bordeaux. Aujourd'hui, c'est le vin.
On peut dire aussi qu'actuellement, on redécouvre Bordeaux. Moi, j'ai redécouvert Bordeaux, puisqu'il y a aussi cette nappe d'eau qui fait que les immeubles se reflètent dans cette eau et que c'est encore plus beau.
Ah mais c'est magnifique. Alors c'est vrai que la meilleure vue de Bordeaux, il faut aller de l'autre côté, hein. Faut pas rester sur les quais rive gauche. Faut voilà. Mieux aller rive droite, se promener. Là vous voyez vraiment ces façades du 18e, dans l'empreinte de Bordeaux. Et on peut remercier une fois de plus Monsieur Juppé, c'est d'avoir fait revivre le port, parce que le port il a toujours été vivant. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu. Il y a tellement de métiers liés à la marine et à la construction navale qui ont malheureusement disparu. De refaire vivre le port aujourd'hui, je peux vous dire que ça donne beaucoup d'émotions à beaucoup de personnes.
Bordeaux, c'est le vin, mais c'est aussi le bord de l'eau. Et on peut dire que là, c'est le mot a tout son sens.
Exactement.
Arrivons maintenant dans votre musée. On y découvre d'abord qu'il y avait, en fait, le vin, mais pas seulement. Il y avait surtout le rhum et le sucre pour les négociants.
Tout à fait. Ben, en fait, les premiers... grands constructeurs de bateaux bordelais et à la fois qui étaient des négociants, donc des commerçants, quand ils sont partis vers les Antilles ou vers la Guyane, quand ils ont commencé à trouver ces terres où il y avait des richesses comme le sucre, entre autres, le sucre de canne qui nous a permis d'avoir du sucre aujourd'hui et aussi à l'époque et aujourd'hui toujours du rhum.
Oui.
Eh bien, écoutez, oui, ça a été des produits qui ont forcément été échangés à Bordeaux, au même titre que beaucoup d'épices, que de tissus, que de couleurs. Vraiment, c'était la place internationale un peu pour tout.
Oui, et c'est ce qu'on comprend très bien parce qu'il y a tout cela dans votre musée. Alors, une autre grande personnalité qui a joué un rôle très important, c'est Aliénor d'Aquitaine.
Ah, sacré Aliénor d'Aquitaine, effectivement. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de trouver un artiste, donc j'appelle via votre émission. Je suis à la recherche d'un artiste qui serait capable de nous recréer une statue d'Aliénor d'Aquitaine, parce qu'il n'en existe pas à Bordeaux, alors que c'est quand même un des personnages phares de Bordeaux. Sans elle, l'Aquitaine n'en serait pas là, notre ville n'en serait pas là, et le monde entier, parce que du coup, ce qu'on oublie souvent, c'est oui, elle s'est mariée avec Henri de Plantagenet, donc, qui a été après roi d'Angleterre, mais c'est surtout que c'était une personne éminemment brillante et qui a décidé de créer des codes pour justement tous ces bateaux qui naviguaient et qui ne venaient pas des mêmes nations, donc qui ne savaient pas communiquer entre eux, qui n'avaient pas les mêmes règles. Donc du coup, elle a créé un code maritime et aujourd'hui, si on n'a pas les mêmes lois entre les terres et la mer, c'est grâce à Aliénor d'Aquitaine qui, dès son intérêt pour la mer, a commencé à créer des codes maritimes pour pouvoir avoir des règles sur l'eau.
Alors ça, je crois que c'était très important de le dire parce que c'est le personnage clé, en quelque
sorte, Bordeaux, bien sûr.
De Bordeaux. Grâce aussi à toute cette organisation du négoce à Bordeaux, il y a eu une évolution du vin, puisqu'il y a eu des créations, je pense à la Chambre de commerce, et puis aussi, et c'est cela qui m'intéresse beaucoup, c'est ce classement depuis 1855. Expliquez-nous cela, parce que non seulement c'est un classement qui a été fait, Mais aussi, on ne peut pas déroger à cela, c'est ça.
Alors effectivement, le classement sous l'ordre de Napoléon III pour la foire internationale de Paris a décidé, la foire universelle, pardon, a décidé de sortir un classement des grands vins de France et donc a créé un classement, le classement de 1855 à Bordeaux, qui ne concerne que les vins de la rive gauche. C'est-à-dire que les vins qui arrivaient de la rive droite, ou en tout cas Bordeaux, comme c'était le port de commerce, faut pas oublier qu'il y a la Dordogne, il y a la Garonne, mais qu'elle va très loin dans les terres, et qu'en fait on remontait les vins du haut pays. Il y avait des vins de Cahors qui arrivaient, il y avait des vins un peu plus bas entre Toulouse et Bordeaux. On produit aussi des vins qui sont relativement bons aujourd'hui, mais à l'époque c'était des raisins, et c'était des jus qui étaient certainement moins bons que ceux de Bordeaux. Mais tout ça c'était interdit. À Bordeaux, ce qui était important, c'était de vendre ce côté rive gauche, Médoc, de ces familles qui étaient des bourgeois bordelais. Et Napoléon s'est inspiré de Thomas Jefferson, qui était donc le premier consul des États-Unis à s'installer à Bordeaux, et même en France. Le premier consul de France et américain qui s'installe à Bordeaux, qui lui avait une vision du vignoble bordelais avec des notes et avait fait son petit classement, on va dire. Et Napoléon III s'est tout simplement inspiré des notes de Jefferson pour ce classement. Alors ce classement, il est figé depuis 1855. Et oui, aujourd'hui, effectivement, avec l'évolution en œnologie, l'évolution du climat, je pense qu'il y aurait peut-être des mises à jour à faire. Ça reste quand même les châteaux qui sont l'élite. Mais pourquoi les voisins qui bénéficient des mêmes terres et du même climat aujourd'hui n'ont pas le droit d'accéder à ce classement parce qu'il est figé depuis 1855. Donc oui, je trouve ça un peu dommage, contrairement à la rive droite, où le classement des vins à Saint-Émilion est arrivé un siècle plus tard. Et ce classement va être remis en question tous les 10 ans, qui va permettre à un propriétaire qui veut s'investir dans le vin aujourd'hui et faire quelque chose un peu de prestigieux, eh bien, il va pouvoir tenter sa chance, rive droite. Rive gauche, c'est figé.
Alors ça, c'est un classement donc, qui semble intouchable, ou peut-être il y a eu quand même des exceptions, je crois.
Alors il y a eu une seule exception, alors ça c'est toujours un petit peu délicat d'en parler, parce que ce qui s'est passé dans l'histoire reste à l'histoire, après on peut toujours la raconter, mais on ne sait pas vraiment toujours les tenants, les aboutissants de nos histoires. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir le partager aujourd'hui avec ces deux musées qui permettent aux gens de venir aussi partager leur expérience et leur histoire. Donc oui, ce classement il a été modifié une seule fois en 1973, à la demande de la famille Rothschild, pour le château Mouton Rothschild, qui était classé second et pas premier. Et forcément, le cousin étant classé premier, il y a eu, je pense, un petit peu de pression familiale pour que les deux se retrouvent dans les premiers grands crus classés. Donc l'exception de ce classement de 1855, c'est effectivement, en 1973, le passage de Mouton Rothschild de second à premier.
Et donc, depuis 1973, il n'y a eu aucun...
Depuis 1973, aucun vin ne peut prétendre rentrer dans ce classement. Alors il faut s'appeler peut-être Rothschild pour pouvoir le prétendre.
Il y en a beaucoup qui ont envie, et selon vous aussi, des vins pourraient le mériter.
Ah, ça, c'est évident que chaque viticulteur bordelais a toujours sa petite parcelle avec ses vieilles vignes et va sortir toujours un vin qui est complètement exceptionnel. Donc oui, il y aurait beaucoup de monde qui mériterait d'être classé aujourd'hui, certainement. Après, voilà, c'est notre histoire qui est faite ainsi.
Une autre chose très importante, c'est que maintenant, on peut voir que ce vin a eu de grandes influences. D'abord, peut-être sur la faïencerie, parce que dans le musée, j'ai vu de très jolies assiettes. Et donc, ça a été influencé par le vin.
Alors, en fait, c'est l'influence de la décoration qu'on peut retrouver sur la vaisselle que vous retrouverez au musée des Beaux-Arts, forcément, à Bordeaux, hein, puisque ce sont eux qui nous ont mis à disposition cette vitrine pour voir un peu l'évolution des influences. Alors, ce n'est pas du vin, c'est des gens qui habitaient dans ce quartier. C'est-à-dire que les premiers qui ont habité et qui ont commencé à construire ici, ce sont les Hollandais. Après, on a eu forcément les Anglais et les Irlandais. Et après, on a eu les Allemands et les Anséates. Et en 1821, les Français qui récupèrent ce quartier des Chartrons. Donc effectivement, durant tout ce temps, on a subi l'influence des nations qui ont siégé dans ce quartier. Donc la vaisselle, forcément, n'était pas la même, avait les mêmes décorations pour les Anglais que pour les Allemands, que pour les Français. Donc la rue de la Faïencerie, qui est très connue à Bordeaux, hébergeait une très 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 belle faïencerie qui s'appelait Vieillard. Donc là aussi, vous avez des collections d'assiettes qui se retrouvent dans pas mal de musées, parce que ça raconte beaucoup d'histoires, ces assiettes.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Avec plaisir. Thank you.
Je suis toujours avec Grégory Précastin et nous avons, dans une première partie, évoqué et Bordeaux et son musée merveilleux, le musée du vin, qui se trouve dans le quartier des Chartrons. Alors nous avons dit quelques mots sur ce quartier merveilleux qui d'ailleurs est en voie de réorganisation, je peux dire, c'est cela.
Tout à fait.
Et cette visite du musée m'a beaucoup plu et nous en étions justement à voir dans certaines vitrines ce que l'on pouvait faire, tout ce qui avait trait au vin. On a vu la faïencerie, mais il y a aussi la tonnellerie, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Mais effectivement, avant l'apparition de la bouteille telle qu'on la connaît aujourd'hui, les vins étaient commercialisés en tonneaux, donc en fûts de chêne, et donc pour la conception ou la réparation, puisque les tonneaux étaient consignés, hein, un petit peu comme les débuts de la bouteille en verre où on avait des petites étoiles dessus, les bouteilles étaient consignées. Et bien écoutez, c'était pareil pour les tonneaux, donc chaque négociant, chaque maison chartronnaise qui faisait du négoce, proprement dit, avait sa tonnellerie et fabriquait ses propres tonneaux. Donc on explique, parce que c'est vrai que quand on vient d'un pays où on n'est pas du tout lié au vin, on s'imagine pas qu'un tonneau c'est fabriqué par les mains de l'homme, que c'est pas une machine qui va nous sortir quelque chose comme ça. Et donc les gens sont souvent émerveillés de voir que c'est un métier qui perdure encore aujourd'hui.
Et toujours le chêne.
Et toujours le chêne, principalement le chêne, puisque c'est une variété de bois qui va permettre autant l'imperméabilité, l'étanchéité, pas trop développer d'arômes si on le laisse de manière neutre. Après, si on le grille un petit peu plus à l'intérieur, forcément, ça va dévoiler des arômes supplémentaires dans le vin. Mais oui, c'est le chêne qui reste le bois le plus noble pour pouvoir fabriquer des tonneaux.
On est toujours très étonné parce que plus on garde du vin et meilleur il est. Mais il faut quand même savoir que avant, eh bien, on pouvait conserver le vin que très peu de temps.
Tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison, plus on attend, plus il est bon. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a eu plusieurs périodes. La première période pour les vins, c'est avant qu'il y ait eu la révolution du soufre, la mèche hollandaise, comme on l'appelle à Bordeaux. Le soufre va faire que on va aseptiser.
Parce qu'avant, on ne pouvait pas garder du vin plus de 3 mois.
Voilà, ça tournait vite. Le vin tournait vite en vinaigre, hein, de toute façon. C'est pour cela, d'ailleurs, à l'époque, les vins étaient dégustés au niveau d'Orléans avant de rentrer dans la royauté à Paris. Pourquoi ? Parce que si les vins avaient tourné le temps que ça arrive de Bordeaux, par exemple, jusqu'à Paris, ça allait plus vite d'aller à Londres en bateau que d'aller à Paris par les terres. Et moins dangereux de partir à Londres en bateau que d'aller à Paris avec tous les bandits qu'on pouvait rencontrer sur la route. Donc souvent, on pouvait être retardé dans le temps, et quand on arrivait un peu trop tard à Orléans, si les vins avaient tourné, ils étaient stockés à Orléans. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait à peu près, je crois, 400 vinaigreries à Orléans, parce que tous les vins de France ne rentraient pas, ils étaient dégustés. Et s'ils étaient tournés, on les transformait en vinaigre.
Donc, c'est resté à Orléans.
Et c'est resté, Et c'est resté. Et du coup, la révolution, c'est quoi ? C'est que les Hollandais, quand ils avaient pour habitude de charger les cales de bateaux, ils avaient pour habitude de brûler du soufre à l'intérieur pour aseptiser et désinfecter l'air. Quand ils sont arrivés à Bordeaux, non seulement ils nous ont appris à construire ces beaux bâtiments qu'on a sur les quais, mais après ils nous ont révolutionné le monde du vin, puisque en voulant conditionner du vin dans des tonneaux comme ils faisaient pour leur cale de bateau, ils ont voulu mêcher, donc allumer une mèche de soufre dans la barrique avant de mettre du vin. Et le fait d'avoir fait ça, cette mèche hollandaise a permis d'aseptiser le bois et de mettre du vin dedans, et on va pouvoir le conserver. Il ne va pas tourner et on va pouvoir le conserver et le bonifier, le vin.
Alors, on peut le consommer à ce moment-là dans l'année, c'est ça ?
Oui, c'est plutôt dans l'année, parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Faut se mettre dans le contexte où la population n'était pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes notions de transport, donc c'est très compliqué de savoir exactement quand est-ce que le vin était consommé, c'est 3 mois après ou 1 an, ça on ne peut pas savoir réellement.
Et ça c'est ce vin qu'on appelait le New French Claret.
Le New French Claret, quand on a appris donc à le faire se bonifier dans des tonneaux.
Alors maintenant, il
le vin, plus... après il y a une période où le vin, il y avait un peu à boire et à manger dans la bouteille. C'est-à-dire qu'on ne les filtrait pas trop les vins, mais ce qui était bien, parce que ça leur donnait un peu de force, de corps pour pouvoir traverser les années. Mais si vous l'ouvriez trop jeune, ce vin, ben, c'était un peu déséquilibré. C'était des fois très fort, des fois, ce n'était pas équilibré du tout. Aujourd'hui, les vins sont vraiment modernes, l'onologie a évolué. Et aujourd'hui, on va vous équilibrer un vin avant de le mettre en bouteille. Mais à l'époque, on mettait en bouteille un peu, comme je vous dis, à boire et à manger. Donc il fallait attendre quelques années que l'équilibre se fasse pour pouvoir le déguster.
Et alors,
Aujourd'hui, attention, c'est moderne.
maintenant, rapidement, le vieillissement du vin, ça se fait comment?
Alors, le vieillissement du vin, il y a plusieurs choses. Le vieillissement du vin, c'est le temps. C'est comme pour nous.
Oui.
Après, on peut bien
Enfin, là, je
sûr.
sais pas si c'est comme pour nous.
Ah, mais si, c'est exactement comme
Ah
pour nous.
bon?
Le vin, il traverse le temps comme nous. On a la même notion à ce niveau-là. Après, suivant le vin, suivant d'où il vient, eh bien, il va pouvoir vivre plus ou moins longtemps, plus ou moins vieux.
Alors,
Après,
qu'est-ce
ce qui
que c'est que
peut
le houillage,
altérer.
par exemple?
Alors, ce qui peut altérer sa
Voilà.
vie, on va revenir au houillage après,
Oui.
mais ce qui peut altérer sa vie au vin, c'est d'être exposé à des températures, à de la chaleur, à la lumière, parce que justement, il est fragile. Et donc, si on veut le faire se conserver longtemps, eh bien, il faut le respecter et le mettre dans des conditions où il va pouvoir vivre tranquillement.
Alors.
Alors, dans les chais, les personnes qui travaillaient ici dans ces maisons de négoce ou dans ces caves plus particulièrement que vous visitez, on faisait donc le travail du maître de chai, c'était quoi? C'était de s'occuper du vin qui était en train d'être élevé dans des tonneaux. Donc il y a trois grands principes que doit maîtriser le maître de chai, c'est le houillage. Alors le houillage, c'est une jolie histoire à raconter aussi parce que on parle de la part des anges dans les chais. C'est quoi? C'est que quand vous avez des tonneaux, vous vous rendez compte que le niveau baisse dans les tonneaux parce que le bois va absorber un petit peu de vin forcément. Et puis le vin, c'est composé quand même majoritairement d'eau, donc ça s'évapore. Donc les niveaux, faut les faire régulièrement des barriques. Donc on va faire le houillage, c'est-à-dire qu'on va remplir les barriques pour pas qu'il y ait trop d'air à l'intérieur, pour pas que ça
Vous savez d'où
s'oxyde.
vient ce mot?
Malheureusement pas,
Non.
mais je vais m'y intéresser maintenant que vous m'avez posé la question, mais ce sera trop tard pour vous la donner la réponse. Avec plaisir, avec
Je
plaisir, vous êtes les bienvenus. Le houillage, après on fait du soutirage. Le soutirage, c'est simple, c'est sortir les jus clairs d'une barrique pour les transvaser dans une autre. Donc ça, tout va bien, hein, soutirer, c'est simple. Et puis après, on a le collage où là, on va l'effectuer justement pour faire des soutirages. Alors le collage, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, on n'avait pas de filtre ou on ne savait pas comment filtrer comme aujourd'hui, forcément. Et on a trouvé un filtre naturel qui est l'albumine, donc ce qui est présent dans le blanc d'œuf. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils cassaient, ils séparaient le blanc du jaune d'œuf. Les blancs étaient un petit peu battus en neige et on mettait ça en surface de la barrique. Ça faisait comme une couche de pétrole sur de l'eau, si vous voulez. Donc c'était en suspension
flotter.
et ça va mettre à peu près un mois à descendre tout doucement au fond de la barrique. Et en fait, en descendant, l'albumine va attirer les déchets grossiers et ça va tomber vers le fond et ça va filtrer naturellement le vin. Et là, on va soutirer le jus clair pour le transvaser et après le commercialiser.
Alors après, on arrive à la mise en bouteille et je dois dire que ça, c'est quand même amusant parce que c'est à ce moment-là que les femmes sont entrées dans cette communauté
Alors,
du vin.
exactement. Alors, la femme a toujours été proche de l'homme, et heureusement, on va dire. Mais c'est vrai que les femmes étaient interdites de chez. Pourquoi? Parce que ça, ce sont toujours des légendes, hein, mais bien réelles, hein, parce qu'on l'a tous entendu, pas forcément pour le vin, mais pour d'autres choses aussi. Mais on disait que les femmes pouvaient faire tourner le vin. Donc ça, c'est quand même magique, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le nombre
Oui, de
de
femmes
femmes
qui sont maîtres
œnologues
de
et qui
chez.
sont maîtres de chez et qui font des vins absolument merveilleux, comment à l'époque on était aussi sectaire envers la femme? Donc là, on peut revenir aussi à l'époque où on a fait de l'esclavage. C'était d'autres mentalités. Donc forcément, on ne peut pas comparer avec nous aujourd'hui, avec notre réflexion. Et du coup, la femme a été invitée à travailler dans les chais quand effectivement le vin était protégé dans une bouteille. Et là, on a eu besoin de petites mains pour pouvoir habiller ces bouteilles, donc poser une étiquette et y mettre la cire ou la capsule qui arrivait par la suite. Et dans ce cas-là, c'était les femmes qui étaient donc invitées à venir travailler dans ces grandes maisons de négociants, alors que jusque l'apparition de la bouteille, elles n'avaient pas le droit d'y mettre les pieds.
Oui, alors justement, parlons des étiquettes. Au début, je pense qu'il n'y avait que les châteaux qui étaient notés sur l'étiquette, c'est ça?
Exactement, il y avait les châteaux avec un visuel qui est relativement simple, hein, quand on regarde un petit peu l'évolution de l'étiquette. Au début, on marquait même pas l'appellation, on mettait même pas la provenance, on connaissait le château parce qu'il y avait moins de châteaux aussi, parce qu'il y avait des négociants qui faisaient bien leur travail et qui commercialisaient ces vins donc de ce classement de 1855. Et du coup, oui, on n'avait pas besoin de marquer grand-chose sur l'étiquette. Et au fil du temps, on voit pareil, hein, l'évolution des mentalités qui font que les étiquettes ont eu une période où elles étaient très bariolées, très chargées, avec beaucoup de dessins, beaucoup de couleurs. Et après, on est redevenu sur des étiquettes un peu plus sobres. En respect au vin, parce que quand même, on peut faire des vins festifs, mais quand on fait des vins qui commencent à coûter 500 euros la bouteille, quand vous avez des étiquettes un petit peu originales, c'est un peu choquant. Donc, dans l'avenir, avec les mentalités, ça va changer. Mais en tout cas, l'évolution de l'étiquette fait qu'aujourd'hui, ce sont des cartes d'identité. Vous pouvez tout savoir sur le vin, rien qu'en lisant l'étiquette, si vous savez bien la lire. Et ça,
Alors
on peut vous l'apprendre.
vous avez dit un chiffre, vous avez dit 500 euros. Je pense que pour les margaux, c'est plus cher.
Bah,
C'est
ça
le vin
dépend
le
le
plus
millésime.
cher? Oui.
Non, non, non,
Non,
c'est pas
c'est
le
pas
vin
le
le plus
margaux.
cher. Le vin le plus cher au monde aujourd'hui, c'est une toute petite propriété qui se trouve en Bourgogne, qui s'appelle le domaine de la Romanée Conti,
Ah oui.
qui produit entre 3 500 et 3 500 bouteilles, on va dire, annuellement. Et donc là, je peux vous dire qu'avec le nombre de milliardaires qu'il y a sur la planète, ça s'arrache, le luxe à la française. Tout le monde le veut sur sa table. Donc le vin le plus cher, c'est celui de Bourgogne. Le second le plus cher au monde, ça va être à Bordeaux,
Oui.
effectivement. Et heureusement, ce n'est pas un vin de 1855. C'est l'exception qui confirme la règle à Bordeaux. C'est Pétrus qui se trouve à Pomerol, qui appartient à la famille Homouex, qui ont fait confiance à un maître de chai qui était un génie du vin, qui s'appelle Jean-Claude Berrouet. Et Jean-Claude Berrouet a fait une 44 millésimes de Pétrus et l'a amené au plus haut de son sommet. Avec sa technique de vinification, avec sa finesse, son respect du fruit, il a fait de Pétrus le deuxième vin le plus cher au monde, après le domaine de la Romanée Conti, et devant largement plein de châteaux qui sont classés. Parce que, comme je vous ai dit, le classement, il faudrait peut-être revoir tout ça.
Bien, je dois dire que ça c'est très important, mais il y a aussi le marketing. Alors, est-ce que finalement il y a des choses qui sont extrêmement importantes? Parce que il y a un film, et j'ai beaucoup aimé ce film, où on voit ce que disent les négociants. Et chaque négociant a un gros travail finalement. On ne s'en rend pas assez compte quand on est dans le domaine du vin. On pense que le négociant achète et vend, alors que ce n'est pas ça du tout.
Non, c'est pas ça du tout, parce que historiquement, et si aujourd'hui l'organisation des vins de Bordeaux est toujours la même, entre le propriétaire récoltant, le courtier, le négociant, avant que ça arrive dans les mains du consommateur, eh bien, si cette histoire on l'a fait perdurer, c'est que forcément les négociants sont très utiles dans l'organisation des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, vous avez quasiment 65% des vins qui sont commercialisés par le négoce bordelais.
Oui,
C'est-à-dire que tous les
ça
petits,
c'est bien que vous le disiez
il y a
parce que.
environ 7 000 viticulteurs récoltant à Bordeaux. Il faut savoir que tout le monde n'a pas une structure commerciale pour vendre ses vins. Donc souvent, des petits viticulteurs qui font déjà bien leur métier, à la fois dans la vigne et dans les chais, ils sont contents d'avoir des maisons de négoce qui les représentent à l'étranger, parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Et aujourd'hui, on ne peut pas, malheureusement, dans l'économie actuelle, ou en tout cas avec les emplois aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une organisation. Donc on va passer des contrats, les négociants vont passer des contrats en s'engageant de vendre la production, et le viticulteur donne sa production en toute confiance à ce négociant pour que ça soit bien commercialisé.
Eh bien, un grand merci, Grégory Bécastan. Le temps nous manque, on voudrait vous entendre encore plus. J'espère que nous pourrons faire un jour une autre émission. Je voudrais que vous donniez vraiment les adresses de vos musées parce que c'est un monde vraiment du vin que l'on découvre en venant chez vous. Voulez-vous les donner pour nos auditeurs?
Alors, si vous voulez venir vivre cette aventure et cette expérience à travers les vins de Bordeaux, il suffit de venir au 41 rue Borie, Borie. Et juste à côté, vous découvrirez donc notre nouvelle salle où on aborde l'histoire maritime de Bordeaux, qui est totalement liée à celle du vin et à des personnages qui sont à la fois dans le vin et à la fois les précurseurs de notre belle ville.
Un grand merci, Grégory Pégastin. Je vous
Merci.
rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Thank you.